What you got?
Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen.
France Inter.
Yeah. RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Le réseau des radios d'outre-mer, la première.
Stand up, crime.
Rastafari.
Stand up.
Very good trip.
Stand up for your right.
Bob Marley. Mishka Asayas.
Get up, stand up.
Our music is a part, I was a part, you know.
Jusqu'ici, on a suivi pas à pas l'ascension de la rockstar la plus improbable des années 70. Parce que Bob Marley avait beau surgir d'une île méconnue des Caraïbes, une île qu'une majorité de ses admirateurs aurait été bien incapable de situer sur une carte, oui, c'était une rockstar. Il en avait le charisme, tantôt en cuir noir, ça lui arrivait, tantôt en tenue de guérillero, un pétard planté au coin des lèvres. Il projetait cette aura de rebelle flamboyant qu'on a vite vu reproduite sur des posters et des t-shirts. Chez Bob Marley, la rébellion n'était pas une posture théâtrale destinée à faire rêver ses fans. Elle était synonyme d'un engagement profond, à la fois politique et spirituel. Un engagement que Bob Marley a failli payer de sa personne, puisqu'il a fait l'objet, beaucoup le savent sans doute, de ce que certains ont pu présenter comme une tentative d'assassinat, enfin à tout le moins, une féroce opération d'intimidation criminelle. C'est ce que je me propose de vous raconter aujourd'hui. Marley et les Wailers sur scène dans une chanson un peu oubliée qui s'appelait Punky Reggae Party. Une chanson qui a marqué la fraternisation à Londres entre deux foyers de rébellion dont les origines étaient à première vue très éloignées. D'un côté, le reggae des Rastas, proclamé par une sorte de chaman messianique, Bob Marley. De l'autre, le punk, les banlieusards londoniens représentés par des espèces d'avortons grimaçants qui se présentaient délibérément comme des sous-hommes et se faisaient cracher dessus. Pourtant, le rapprochement avait déjà eu lieu. Dans son premier album, paru début 1977, le groupe The Clash avait repris une chanson de reggae qui circulait alors pas mal au sein de la communauté jamaïcaine à Londres, regroupée dans le quartier de Brixton, dans le sud de la ville, Police and Thieves, gendarmes et voleurs d'un certain Junior Mervyn. Et c'est d'ailleurs le bassiste de The Clash, Paul Simonon, qui l'avait suggéré au groupe. Oui, il connaissait très bien le reggae parce qu'il aimait bien peindre ses tableaux en fumant des pétards et en écoutant des disques de dub. Bob Marley avait d'abord fait la grimace. Pour lui, les punks, c'était Babylone, le signe d'une décadence malsaine, propre à un Occident perdu et corrompu. Il a fallu toute la force de persuasion d'un jeune londonien issu de l'immigration jamaïcaine pour le faire changer d'avis. Don Letts, c'est son nom, s'était fait admettre dans le cercle de proches de Marley. Il faut dire qu'il lui fournissait censément de la très bonne herbe. Don Letts a été historiquement le premier punk noir de Londres. Un jour, il a débarqué chez Marley, les cheveux coupés très courts, vêtu de ce qu'on appelait des bandage pants, hein, vous savez, ces pantalons dont les jambes étaient reliées par une sangle qui entravait exprès la marche. Don Letts faisait danser les punks sur des 45 tours de reggae et de dub dans une boîte qui s'appelait le Roxy Club. Et il a fait comprendre à Marley que le mouvement punk portait lui aussi un message de défi, de révolte et de liberté qui pouvait être aussi celui de Bob Marley. Alors celui-ci a changé d'avis et ça l'a même inspiré. Il a écrit et enregistré à Londres, en été 1977, une chanson de circonstance, Punky Reggae Party. Son collaborateur historique Lee Perry en a réalisé l'enregistrement en studio. On y entend Marley, exceptionnellement accompagné par un groupe de reggae anglais, Aswad. New Wave, New Craze. New Wave, nouvelle folie, s'écrit-il, c'est une punky reggae party. Allez, viens, il y aura The Damned, The Clash, The Jam. Ce sera interdit aux vieux ringards. Un message qui, évidemment, allait droit au cœur des punks, ces jeunes gens aussi perdus qu'arrogants, qui vomissaient les Rolling Stones et Led Zeppelin, juste pour emmerder ceux qui continuaient à vous parler de Woodstock, et oui, et qui ne voulaient pas admettre qu'on avait changé de monde. Alors, je reviens à cette version de Punky Reggae Party qu'on vient d'entendre. Version, vous l'avez entendu, en public. Les textes figurant sur la pochette de l'album live Babylon by Bus indiquent que cet enregistrement a été réalisé lors d'un concert parisien en mai 1977. Or, les spécialistes assurent que c'est faux, qu'il s'agit en fait d'un des trois concerts que Bob Marley et les Wailers ont donné l'année suivante, en juin 78. Alors j'ai évidemment aucun avis là-dessus, mais je peux témoigner d'une chose, le concert du Pavillon de Paris du 10 mai 77, j'y étais, oui. Alors, de nos jours, enfin bon, je parle pas de 2020, année maudite, on va au concert à peu près comme on va au cinéma. Hein. On achète son ticket, on fait la queue, personne ne vous pousse, et une fois que vous êtes dedans, même si vous êtes debout, vous n'avez pas peur à chaque seconde d'être bousculé ou piétiné. Eh bien, je vais vous dire en toute franchise, le principal souvenir que je garde de ce concert de Bob Marley des Wailers au Pavillon de Paris, c'est d'avoir eu la trouille. Imaginez dans le nord de Paris, je sais pas, vous avez 17 ans, 18 ans, un simple hangar ouvert à la Villette, là où il y avait autrefois des abattoirs. Pour y entrer, une ambiance quelque part entre la distribution de pain en Pologne après la Seconde Guerre mondiale et l'émeute larvée. Des gens arrivent de tous les côtés, ils vous poussent de partout, prêts à vous broyer, sous la surveillance d'un service d'ordre effrayant, hein, des gars qui tiennent des chiens loups en laisse, hein, même pas en muselière, prêts à les lâcher sur les resquilleurs. Une fois à l'intérieur, vous vous sentez tout sauf en sécurité. Vous pouvez recevoir des bouteilles, en verre évidemment, des projectiles, des boulons, enfin tout ce qui peut tomber sous la main des gens. Et si quelqu'un vous balance juste le fond de sa bière, vous avez de la chance. Et le son est pourri, rebondit dans tous les sens, vous avez l'impression d'être perdu au milieu d'une grotte. Les concerts de rock sont alors en France une expérience physique, une sorte d'épreuve, de rite initiatique, un peu comme une manif. Faut dire, ça a bien changé. En tout cas, je garde malgré tout de ce concert de Bob Marley and the Wailers un souvenir impérissable, la transe qui s'est soudain emparée de moi, au milieu de la foule, quand le groupe s'est mis à jouer Exodus. On entendait, j'allais dire, on ne sentait que les percussions, et puis il flottait par là-dessus un immense nuage d'herbe, j'allais dire de ganja, bah oui, gros comme un zeppelin. J'avais jamais vu ça de ma vie, en fait, ça se sentait aussi. Et d'ailleurs, j'ai jamais rien revu ni senti de tel depuis. Bob Marley et les Wailers sur la scène du Pavillon de Paris en juin 78, donc dans Jammin', une de leurs chansons les plus populaires. Je vous laisse imaginer l'ambiance, je vais vous donner quelques éléments. Jamais Bob Marley et les Wailers sur la scène du Pavillon de Paris en juin 1978. Jamais, une chanson qui est devenue avec le temps un des totems de Bob Marley, où il en appelle à l'unité, à l'extinction des discordes, au rassemblement de tous les enfants de Jah. Alors des formules en apparence creuses et convenues, mais il ne faut pas s'y tromper, en réalité elles ne le sont pas du tout. Dans un pays où règne une forme d'apartheid, hein, qui ne s'avoue pas, elles ont de quoi gêner fortement d'un côté comme de l'autre. Je vais vous citer un passage précis de cette chanson, « Aucune balle ne peut nous arrêter ». Alors pourquoi parler d'une balle ? Eh bien, Bob Marley fait là une allusion très précise à celle qu'il a reçue et qui est venue se loger dans son bras le soir du 3 décembre 1976. Alors j'ai tenté tout simplement déjà de savoir comment les choses se sont exactement passées, et c'est franchement pas simple. Je me suis plongé dans une jungle de comptes rendus et de témoignages, une forêt vierge de versions et interprétations diverses. Et j'en suis arrivé à un premier constat: c'est impossible de distinguer les faits de la boule incandescente d'émotions qui les a aussitôt enveloppés et embrasés. Alors je vais commencer un peu comme au cinéma, par un plan large. La demeure du 56 Hope Road, située dans un quartier résidentiel du nord-est de Kingston, la capitale de la Jamaïque bien sûr. Une maison de maître en bois, au toit pointu, de style colonial. Elle a été récemment acquise par Chris Blackwell, le mentor blanc de Bob Marley, qui bientôt la lui revendra. C'est là que Bob Marley a installé le quartier général de son label jamaïcain Tuff Gang, c'est aussi son surnom à lui. Il y a fait équiper un studio de répétition et d'enregistrement et arrangé une douzaine de chambres pour loger son équipe et sa tribu. Il se garde une chambre pour lui à l'étage pour se reposer, composer, méditer et accessoirement recevoir ses maîtresses. Rita, sa femme et leurs enfants habitent loin, dans une maison de bord de mer à l'est de la ville, à Bull Bay. La présence de tous ces rastas, qui en plus jouent de la musique pendant la nuit, suscite naturellement l'hostilité du voisinage blanc. Et je vous parle pas de tous les traînards alentours, les fumeurs de ganja qui restent assis là à palabrer devant les grilles, ceux qui viennent demander de l'argent. À Bob Marley, le rasta qui a réussi. À l'arrière de la maison se trouve un grand manguier sous lequel il aime bien s'asseoir pour jouer, parfois jusque tard dans la nuit. Et aussi un terrain pour jouer au football, ce qu'il fait toujours pieds nus. Alors aujourd'hui, la maison du 56 Hope Road est devenue le musée Bob Marley. On y propose des visites guidées qui se concluent par un repas au restaurant One Love. Je vous ai raconté lors de l'épisode précédent le contexte de ce mois de décembre 1976. Le premier ministre jamaïcain, Michael Manley, a forcé la main de Bob Marley pour réorienter le grand concert intitulé Smile Jamaica qu'il doit donner le 5 décembre. Oui, Manley souhaite, enfin le mot est faible, non, il exige que ce concert gratuit se transforme en une manifestation de soutien à son pouvoir et à son parti, le PNP, le PNP, le People's National Party. Parce qu'il va y avoir une élection anticipée dans un contexte particulièrement tendu. L'espoir qu'a fait naître Manley en arrivant au pouvoir en 1972 est alors battu en brèche par une situation économique désastreuse et le pays semble au bord de l'effondrement. Le clan Marley a déjà été récompensé pour son soutien au PNP, qui a offert une maison à Rita Marley. Alors le mécontentement est grand parmi les rangs du parti opposé conservateur, le JLP, parmi lesquels Marley compte également des amis. Alors il faut dire qu'il se sent totalement piégé, parce que croire qu'on va arriver à réconcilier tout le monde, c'est dans ce contexte extrêmement dangereux, et Bob Marley l'apprendra à ses dépens. Alors ce 3 décembre 1976, il est environ 8h du soir. Les grilles de la propriété, habituellement gardées, ont été défoncées, ou bien elles étaient ouvertes, alors les récits divergent. Personne en tout cas n'est là pour empêcher deux berlines Datsun blanches de s'engager. Plusieurs hommes en sortent équipés d'armes de poing. Enfin, hommes, c'est beaucoup dire. Ceux qui les ont vus racontent que c'était des gamins et que le plus âgé avait l'air d'avoir 17 ans. Certains disent qu'ils étaient 9, d'autres 7, d'autres moins, enfin on n'en sait rien. Dans le studio de répétition, Bob Marley et ses musiciens sont en train de répéter en vue du concert de dimanche. Quelle chanson ? I Shot the Sheriff. Eh oui, ça ne s'invente pas. Bob Marley sort du local de répétition qui donne dans la cuisine pour se préparer un pamplemousse. Et à ce moment-là, son manager, Don Taylor, le rejoint. Et il se retrouve face à un tireur situé dans l'escalier montant vers la cuisine. Et ce tireur lui loge 4 ou 5 balles dans l'aine. Don Taylor s'effondre, laissé pour mort. Il sera sauvé in extremis par une opération de la moelle épinière dans un hôpital de Miami. Un des attaquants, le même, se retrouve seul face à Bob Marley. Et là, c'est extrêmement étrange. Il tire dans tous les sens. On retrouvera des impacts de balles partout dans la pièce. Et la seule balle qui atteint Bob Marley le fait par ricochet. Elle rebondit contre un mur, effleure sa poitrine et vient se loger dans son bras gauche. Marley a juste le temps de s'enfuir et le tireur ne lui court pas après. Marley part en effet se réfugier dans la salle de bain contiguë au studio de répétition où ses musiciens qui ont détalé comme des lapins se sont réfugiés. Dans un réflexe dérisoire, ils se sont tous couchés dans la baignoire vide, empilés les uns sur les autres. Marley étant le sixième à les rejoindre. Et quand il arrive, il ouvre le robinet sans le faire exprès et l'eau coule sur eux. Personne n'ira les chercher là. Rita Marley, présente ce soir-là dans une autre pièce de la maison, avec ses deux enfants, a juste eu le temps de courir jusqu'à sa voiture, avec les enfants, de démarrer et de rouler vers la sortie. Un des agresseurs tire 5 balles à travers le pare-brise. Rita n'est pas grièvement blessée, mais une des balles érafle le haut de son crâne qui se met à saigner. Elle roule jusqu'à la grille où un autre assaillant l'arrête et lui braque un pistolet sur la tempe. Rita ferme les yeux et croit sa dernière heure arrivée. Mais l'assaillant se ravise et disparaît avec les autres. Et quand Bob Marley sort de sa baignoire, une balle logée dans son bras gauche, selon les témoignages, il ne tremble pas de peur. Pas du tout, non. Il est furieux, il est foudrage. Et deux jours plus tard, il sera sur scène devant 80 000 personnes. Don't criticize it.
Good for the food. love to play with it. So you got to legalize it. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it.
France Inter.
RTS La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Hey, this is Bob Marley on Exodus, Movement of Your People. Wanna say hi to all you princes and princesses, brothers and sisters, babes and sucklings. Wanna say all the priests, warriors and traitors, be still for Jalib, Rastafari.
Une publicité radiophonique d'époque, en 1977, pour annoncer la sortie de l'album Exodus de Bob Marley and the Wailers, le cinquième album international du groupe au fête de sa gloire. Un album enregistré à Londres, Londres où Marley est parti se réfugier après l'attentat que je vous ai décrit. Le premier album où il a transmis le message ultime des Rasta, la délivrance pour tous les descendants d'esclaves, la fuite hors de Babylone, l'effacement de l'exode, le retour à la terre promise tant rêvée, vers une Afrique mythique, enfin unifiée, dont tous les pays auront surmonté querelles et divisions. Et juste avant, si vous n'avez pas reconnu la voix de Bob Marley, bah c'est tout à fait normal, c'était pas lui. Mais son camarade Peter Tosh, qui fait en cette année 1976 ses débuts internationaux. Sa chanson Legalize It, hein, légalisez-la, la ganja évidemment, a été interdite en Jamaïque, ce qui a bien sûr accru le prestige de ce rebelle bien plus violent et radical que ne l'était son camarade Marley. En tout cas, c'est le groupe de Bob Marley qui accompagnait Peter Tosh dans cet enregistrement, y compris ses trois choristes, hein, les I3s, Rita Marley, Marsha Griffiths et Judy Mowatt. Alors, une fois les tireurs disparus, il y a bien une seule certitude qui s'impose au 56 Hope Road, où la légende veut que exactement 56 balles aient été tirées. Ne pas rester là une minute de plus. Certains courent se cacher, comme Family Man, le bassiste, et la chanteuse Judy Mowatt, on ne les verra plus pendant deux jours. C'est alors que Chris Blackwell prend la direction des opérations. Perché dans sa maison de Strawberry Hill, dans la montagne luxuriante, hein, au nord-est de Kingston, armé de son talkie-walkie, il organise tout. Le transfert de Don Taylor par hélicoptère à un hôpital de Miami où on parviendra à le sauver de la paralysie. Quant à Rita, arrivée chez elle à Bull Bay, elle sera conduite à l'hôpital. Et une voiture vient prendre Marley. Un médecin à l'hôpital l'examine, juge sa blessure bénigne et choisit de ne pas extraire la balle. Le bras gauche bandé, Bob Marley se fait convoyer à Strawberry Hill dans la maison de Blackwell, autour de laquelle des membres de la branche Rasta à laquelle il est affilié, les 12 tribus d'Israël, c'est comme ça que ça s'appelle, montent la garde. Ce sont des proches du footballeur Skill Cole, au prestige international, un homme qui joue auprès de Marley un rôle d'intendant et de régisseur. Très vite, il faut prendre une décision. Donner ou ne pas donner le concert. Les avis divergent et Bob Marley hésite, évidemment. « Je n'irai que sous la protection d'une mitrailleuse », pense-t-il d'abord. Rita, jointe à l'hôpital par talkie-walkie, lui dit « Non, c'est un suicide, n'y va pas ». Il y a là aussi Jeff Walker, le responsable américain des Disc Island, qui supervise une équipe américaine venue là pour tourner un documentaire. Jeff Walker est en conflit avec le cinéaste Perry Henzel, un blanc jamaïcain, celui-là même qui a réalisé le film avec Jimmy Cliff, The Harder They Come, sorti en 72, et qui souhaite donner à ce documentaire une dimension politique, ce dont Jeff Walker ne veut absolument pas entendre parler. Personne ne sait ce qui va se passer. Cela dit, la voix de certains pèse plus que d'autres. Le Premier ministre, Michael Manley, et son parti, le PNP, tiennent, eux, coûte que coûte, à ce que le concert ait lieu. Et ils ont les moyens d'obtenir ce qu'ils veulent. Le dimanche, en début d'après-midi, soit deux jours après l'attentat, un cortège de voitures de police s'arrête devant la maison de Chris Blackwell. Le chef en sort armé d'un Magnum 357 chargé. Vous savez, c'est un machin très impressionnant au canon extrêmement long. Et il explique à Bob Marley qu'il va le conduire au concert et que celui-ci n'a rien à craindre, il est sous protection. Comme on dit, c'est une proposition qu'il ne refuse pas. Le cortège dévale à tombeau ouvert la route de Lasset qui conduit jusqu'au lieu du concert. À 5h de l'après-midi, 50 000 personnes se sont déjà massées là. D'autres groupes ont commencé à jouer. Certains membres des Wailers sont arrivés, mais pas Family Man, toujours introuvable, qui a peur et qui se cache. La foule grossit, un hélicoptère tourne au-dessus de sa tête. Et puis la nuit tombe. Une rumeur commence à enfler. Bob Marley est là, il va chanter, une balle l'a touché, mais il est indemne. Ja l'a protégé. Seulement, la foule est devenue tellement compacte que quand Marley arrive sur les lieux, il est impossible pour lui de se frayer un chemin. Alors, Bob Marley va être littéralement porté en triomphe, d'épaule en épaule, jusqu'à la scène, acclamé par une foule en adoration. Vu son état, il a le bras gauche immobilisé, il ne peut pas jouer de guitare, il n'a prévu de chanter que deux chansons. Le bassiste du groupe Third World, Cat Core, prend la basse, des amis s'installent aux percussions, on fait avec ce qu'on a, et bientôt, il y aura même plus de 200 personnes sur la scène, sur cette scène extrêmement étroite, et Bob Marley va chanter plus d'une heure et demie, danser même, bientôt rejoint par Rita Marley, la tête encore bandée, et puis Family Man va finir par émerger. Rita Marley a quitté l'hôpital précipitamment, averti par Johnny Mowat que le concert avait lieu. Même l'équipe de cinéma qui avait renoncé et s'était mise à ranger tout son équipement et tout son matériel, déballe à nouveau en catastrophe ce qu'elle peut et envoie au dernier moment un gars sur scène, caméra à l'épaule. À ce moment-là, tout le monde peut voir Michael Manley perché sur le toit d'un car Volkswagen, les bras dressés à la Chirac. Hein. Il faut dire qu'il a de quoi exulter, il a obtenu exactement ce qu'il voulait. Il sera réélu. Bob Marley relève la manche de sa chemise et montre son bras blessé. Selon le témoignage de Carl Colby, un des membres de l'équipe américaine, la foule vit alors une sorte d'expérience religieuse. C'était comme le Christ sur la croix, se souviendra-t-il. Ce seront les derniers moments de Bob Marley en Jamaïque avant longtemps. Le soir même, il s'envole incognito pour une petite île des Bahamas au large de Miami dans un avion affrété par Chris Blackwell. Officiellement, personne ne sait où il est, sauf sa mère qui vient le rejoindre. Pavillon de Paris en juin 1978, Bob Marley and the Wailers dans Exodus, la chanson qui a donné son titre à l'album paru l'année précédente en pleine période punk. Un album enregistré à Londres où Marley était parti se réfugier après l'attaque armée menée le 3 décembre 1976 au 56 Hope Road à Kingston. Alors comme je vous ai dit, 77 ça a été l'année punk, mais enfin pour le grand public, ça a plutôt été l'année disco. Et clairement, Exodus était un titre disco qui passait dans les discothèques. Voilà, c'était le but de Marley. Alors Bob Marley savait exactement qui était derrière cette expédition ayant failli coûter la vie à son manager Don Taylor. Il a déclaré dans une interview, et je cite ses paroles, c'était le diable. Et pour Marley, ça n'avait rien d'une plaisanterie. Mais qui donc composait l'armée du diable? Il n'a jamais voulu répondre. « Je le sais », a-t-il dit un jour, « et je ne le dirai pas, c'est top secret ». Interrogée par un journaliste, sa fille Sadella a eu un jour cette réflexion, je la cite. « Parfois, tu t'aperçois que les méchants sont en fait des mecs super sympas. Des mecs super sympas, capables de tuer en un clin d'œil. » C'est le journaliste anglais Chris Salavich qui a recueilli ses propos dans un livre captivant qui s'appelle « Bob Marley, The Untold Story ». Bob Marley, l'histoire jamais racontée, publié en 2010 et traduit en français sous le titre un peu moins bon « Bob Marley, une histoire jamaïcaine hein, », paru en 2012 aux éditions du Camion Blanc. Bien mieux qu'une biographie, il s'agit d'une enquête menée avec autant d'intelligence que de sensibilité par un homme qui connaît très bien la Jamaïque et qui a vu, d'ailleurs, l'histoire se dérouler sous ses yeux et que la musique de Bob Marley a fait vibrer dès qu'il l'a entendu. Salavich a été, en effet, un des responsables éditoriaux à Londres du New Musical Express, hein, le NME, à la fin des années 70, un hebdomadaire qui fut ma bible comme celle de nombreux passionnés tout autour du monde. C'est de ce livre, remarquablement précis et fouillé, que je tire beaucoup d'informations, tout comme de celui de l'archiviste californien Roger Stephens, qui a interrogé à peu près tous ceux et toutes celles qui ont connu Bob Marley, compilant cette somme d'entretiens dans un livre intitulé « So Much Things to Say », le titre aussi d'une chanson de Marley, traduit en français sous ce même titre et publié chez Robert Laffont en 2018. Alors pour revenir à ce témoignage de Sadella, hein, la fille de Bob et Rita Marley, que peut-on comprendre? Eh bien, que les Marley connaissaient très bien ceux qui avaient monté cette opération. Des gens super sympas, hein, pour reprendre ces termes. Ça, c'est à peu près la seule certitude qu'on puisse avoir. Le reste est très opaque. Alors je vous livre toutes les pistes que les uns et les autres ont pu avancer. Le manager de Bob Marley, Don Taylor, avait d'importantes dettes de jeu. Selon certains, c'est en fait lui qu'on aurait visé. À l'appui de cette hypothèse, on relève qu'il est le seul ayant vraiment fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Une autre piste mène au footballeur Skill Cole, hein, le grand copain de Marley. Celui-ci avait attiré une bande de parieurs hein, qui s'étaient réunis au 56 Hope Road en leur garantissant un résultat gagné d'avance, enfin une course de chevaux truquée, quoi, moyennant une petite, enfin sans doute une grosse commission pour lui. Hélas, le cheval sur lequel il les avait fait miser n'avait pas gagné. Et évidemment, les parieurs étaient très mécontents. Skill Cole, ça tombait bien pour lui, avait quitté la Jamaïque. Il était parti entraîner une équipe de football en Éthiopie et on ne l'a pas revu pendant quelques temps sur l'île. Ce qui est avéré, c'est que peu de temps avant l'attaque, certains parieurs, ou sans doute de sympathiques amis à eux, s'en étaient pris à Marley, l'estimant complice, et lui avaient extorqué de l'argent. Enfin bon, ça fait beaucoup d'hypothèses. Alors là-dessus, j'ai un témoignage inédit que j'ai pu obtenir grâce à une journaliste que les auditeurs de France Inter connaissent bien, Laurence Thomas, qui a ses entrées en Jamaïque. Grâce à elle, j'ai pu interviewer en visioconférence, enfin un peu pompeux, mais enfin bon, je lui parlais par WhatsApp, quoi, le musicien jamaïcain Kiddus Eye. Kiddus était présent sur la scène du concert Smile Jamaica. Il connaissait Bob de très près. Il tenait en effet un restaurant à Kingston et c'est lui qui fournissait au 56 Hope Road des sandwichs de nourriture Rasta, dite Ital, et d'autres choses aussi. On le surnommait Dr. Feelgood, hein, je vous laisse deviner pourquoi. Kiddus m'a assuré que l'embrouille au sujet de la course de chevaux truqués avait en fait été réglée avant l'attaque. Alors est-ce pour cette raison que Bob Marley a dû, selon une source citée par Salavich, verser 40 000 dollars à une bande de trafiquants d'armes liée à ses parieurs basés à Miami? Il ne me l'a pas confirmé. Bon, une hypothèse de plus. Que reste-t-il? Le lendemain de l'attaque, l'ambassadeur américain à Kingston, dont on a quelques raisons de penser qu'il est bien informé, envoie un câble à Washington où il écrit à peu près ceci. Des coups de feu ont été tirés chez Bob Marley, il a été blessé. Soit c'est l'œuvre de partisans du JLP, hein, JLP, c'est-à-dire le Parti conservateur chassé du pouvoir en 72, qui ont cherché à intimider Marley afin d'empêcher qu'ait lieu ce concert présenté comme un soutien affiché au PNP, un PNP du Premier ministre sortant. Soit, c'est l'hypothèse de l'ambassadeur américain, des hommes de main du PNP ont monté eux-mêmes l'opération pour faire de Bob Marley un martyr et entraîner ainsi une sympathie accrue pour leur cause. Alors, à l'appui de la première interprétation, on peut mettre en avant la visite d'un chef de guerre du JLP ayant expressément demandé à Marley quelques jours auparavant d'annuler sa participation au concert. À l'appui de la seconde hypothèse, certains commentateurs font valoir que les grilles de la propriété, habituellement gardées par des affidés du PNP, se sont retrouvées au moment de l'arrivée du commando sans surveillance. Peut-être les gardiens ont-ils été achetés, comment savoir ? Et peut-être aussi qu'on a voulu signifier à Marley que sans la protection du PNP, eh bien le pire pouvait lui arriver. En tout cas, ce qui paraît certain, c'est que si les assaillants avaient décidé d'exécuter Bob et Rita Marley, rien ne les aurait arrêtés. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. Ce qui fait penser à une opération d'intimidation et non à une tentative d'assassinat ratée. Une opération extrêmement sérieuse puisque Bob et Rita ont été l'un et l'autre blessés et que Don Taylor a failli y laisser sa vie. Il existe une autre piste, celle de la CIA. Chris Blackwell raconte qu'un jour où il avait rendez-vous à l'ambassade américaine, un responsable lui a fait comprendre que les États-Unis avaient Bob Marley à l'œil. C'est logique. Ça ne faisait pas du tout plaisir aux Américains que la plus grande star jamaïcaine à la voix respectée se retrouve embrigadée dans un parti pro-cubain. Comme je vous l'avais dit dans un épisode précédent, la CIA soutenait le parti opposé, le JLP, dans le but de contrecarrer l'influence de Cuba en Jamaïque. Cuba recevait des armes d'Union soviétique et les redistribuait aux gangs jamaïcains proches du PNP. Et pour accréditer cette hypothèse de la CIA tirant les ficelles de l'attaque contre Marley, certains ont mis en avant les liens familiaux d'un des jeunes membres de l'équipe de tournage américaine arrivée en Jamaïque pour filmer le concert, Carl Colby. Celui-ci se trouvait en effet être le fils d'un important responsable de la CIA. Alors une accusation franchement tirée par les cheveux, qui a d'ailleurs scandalisé l'intéressé le jour où on la lui a rapportée. Colby, stupéfait, a fait valoir que son père avait alors démissionné de la CIA et que lui-même avait justement choisi de rompre avec le chemin suivi par celui-ci. Il n'était que le très jeune membre, aussi enthousiaste qu'innocent, d'une équipe de cinéma. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce que je peux dire en tout cas. On a écouté tout à l'heure Peter Tosh, et bien je vous propose à présent d'écouter la très belle voix du troisième Wailer, Bonnie Livingston, dit Bonnie Wailer, qui a publié lui aussi un album en 76, le très beau Black Heart Man, à son surnom. Il est aussi accompagné par les musiciens de Bob Marley, et ce titre s'appelle Reincarnated Souls.
All the years we've spent only changing name, protect the innocent. Like a seed planted by the water, here to die before new birth. Changing its form to another, taking on a structure just as the first. He who is weary, let him come hither. He who has eyes to see, let him look yonder. He who is thirsty, let them drink clear water. Drink water, children. Drink water, children. Cause it's the age of the plague. Can't you see it's dawning?
France Inter,
RTS la première,
RFI,
RTBF la première,
le réseau des radios d'outre-mer la première.
Chanson les plus connues de Bob Marley, One Love, elle figure sous cette version dans l'album Exodus, publié en 1977. Une chanson qui renvoyait au passé des Wailers, au temps où ils étaient encore ce trio vocal composé de Bob Marley, Peter Tosh et Bonnie Livingston. Ils avaient remporté un grand succès en Jamaïque en 1965 grâce à une première version de cette chanson One Love au style rétro qui évoquait le doo-wop américain des années 50. Et 12 ans plus tard, en 1977, pour l'album Exodus, Marley réinventait One Love et rendait cette chanson universelle. Il avait couplé pour la circonstance One Love avec une citation de People Get Ready, une chanson créée par les Impressions, le trio vocal de Chicago où s'était révélé Curtis Mayfield au début des années 60, le grand modèle des Wailers. Alors, Exodus est un album étrange. Les chansons de Marley sont encore pleines d'espoir et de combativité, mais après l'agression du 56 Hope Road à Kingston, un ressort est cassé. 5 de ses chansons font allusion à l'attaque dont il a été victime. Alors Bob Marley, installé à Londres, va mener une toute autre vie. Il se consacre à la musique avec la même ardeur et la même discipline, mais une autre lumière va venir l'éclairer. Il est tombé fou amoureux d'une jeune femme qui n'est pas de son monde. Blanche, Sandy Breakspear, appartient à la bonne société de Kingston et n'est pas du tout impressionnée par sa notoriété. D'une certaine façon, elle lui résiste. Il faut dire qu'elle est elle-même très ambitieuse, c'est une femme d'affaires et elle met aussi sa plastique à profit pour participer à des concours de beauté. Élue Miss Jamaïque, elle s'envole pour Londres, financée par Marley pour participer au concours de Miss Monde qu'elle va remporter fin 1976. Ce sera de l'aveu général le grand amour de Bob Marley, un amour qui illuminera sa vie nouvelle, comme en témoigne cette chanson qu'il a écrite pour elle, Waiting in Vain, avant qu'une nouvelle ombre vienne obscurcir sa vie et qu'un nouveau combat le fasse se dresser à nouveau. C'est ce que je vous raconterai bien sûr dans le prochain épisode de cette série.
All the peace warriors and traitors be still, but you live. I don't want to wait in vain for you. I don't want to wait in vain for you. I don't want to wait in vain for you. From the very first time I placed my eyes on you, girl, my heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line, but the waiting feel is fine. So don't treat me like a puppet gone astray, 'cause I know how to do my thing. Some more, yeah, see.